direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On ne peut pas faire de magie, là. On ne peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Oh, bonjour les tout petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François Gélinas.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table. Les fameux acolytes. Bonsoir la gang!
Bonsoir!
Salut!
Avec nous, la très mélodieuse Christine Gélinas.
Ouais, salut tout le monde!
La passionnée Geneviève Proulx.
Bonsoir!
L'ingénieux Juan Blasco.
Allô, allô!
La très animée Janelle Touchette.
Bonsoir, bonsoir!
Et avec nous aujourd'hui, le poète con... Patrick Beaudoin! Oh.
Bonsoir!
Ça va bien tout le monde?
Oui.
Ça fait longtemps bien. Qu'on s'est vu, hein? Ça fait 3 semaines et ça, c'est un peu trop long, hein?
Oui.
Hein, on va se le dire.
On s'ennuie.
C'est notre dernière. On va espérer que ce soit la dernière en isolement et que le retour cet automne, on va se le faire en studio, toute la gang ensemble. On va se souhaiter ça, il me semble. Hein?
Ah, oui, on se le souhaite.
Oui.
On enregistre ça le jour de la fête des pères. Et en parlant à mon papa, il me dit « Ben, vous allez parler de la mère à la fête des pères? » Ah ben, c'est bon ça, c'est bon! Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, ben, un bref rappel de ce qu'est le cabaret des acolytes. On fait toute une célébration autour d'un thème et ben, avec la gang, là, on choisit un thème et on s'en inspire et chacun fait une chronique autour de ce thème, là, ce qui l'inspire. Je reviens vers vous dans quelques secondes, les acolytes, le temps de présenter aux auditeurs ce thème, le thème de notre cabaret ce soir. Alors, à l'abordage, moussaillons, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, au mât hissons les voiles, quittons le littoral, droit devant nous, il n'y a que cette vaste étendue d'eau salée que nous célébrons ce soir au cabaret. Ses vagues masquent ses profondeurs aux fosses abyssales. Son odeur donne un léger aperçu de toute sa flore et sa faune marine. De Cousteau à Haddock, de Poséidon à Jonas la baleine, de Christophe Colomb à Pizarro, ce conquistador espagnol, ça c'est pour Juan, la mer a toujours fasciné l'humanité. Ce soir, au cabaret des acolytes, on trempe un petit peu le pied dans le thème de la mer.
Bravo Jean-François.
Je me tourne vers vous les acolytes. On a le plaisir de recevoir à nouveau Patrick Beaudoin. Patrick, tu vas nous faire un poème autour de la mer.
Oui, exactement. Sur les mystères et ce que ça me fait vivre, ce que ça me fait...
Ressentir.
Parce que ça me fait bouger dans les entrailles, tu sais.
Oh, c'est bon. Christine, tout au long du cabaret, tu nous as fait vibrer, mais cette saison, on a fait le tour, hein. Il y a quelques personnes qui ont pris ta place à la console musicale. Et cette semaine, la mer, ça t'a inspiré quoi?
Ben, c'est vraiment un excellent thème. Moi, quand je pars en vacances, en fait, c'est juste avant les vacances, ce thème-là. Puis quand je pars en vacances, j'ai besoin de déconnecter. Puis la mer me fait que déconnecter. Puis j'espère que notre cabaret aussi va vous faire déconnecter.
Oui, ben et effectivement, Christine, c'est une raison pourquoi on a choisi la mer cette saison. Cette émission, c'est parce qu'on voulait terminer la saison en se disant, ben, on s'en va à la mer, on quitte, puis on s'en va à la mer et on prend nos vacances, voilà.
Yes.
Merci beaucoup, Christine. Janelle, pour ta part, tu reviens avec des faits divers, des faits insolites sur la mer.
Oui, exactement. Je reviens dans mes pantoufles. mon sujet, bref. Mais, et puis, en plus, le sujet d'aujourd'hui a même inspiré nos vacances, le thème de nos vacances pour cet été. Donc, voilà.
Oh, okay. Wow. Geneviève, ce qui t'a interpellé dans le thème ce soir, ce sont les produits de la mer, les produits qu'on peut mettre à notre table.
Exactement. Alors, je vais vous parler de ce qu'on retrouve par ici, par chez nous, qui a de plus délectable, pourquoi pas.
Bon, merci beaucoup Geneviève. Juanito, de ton côté, tu t'es dit que tu allais nous raconter une petite histoire, donc tu as choisi de nous démystifier un peu la légende de l'Atlantide.
Eh bien oui, en effet, Jean-François, tu me connais, l'histoire, ça vient me chercher, les légendes, j'adore ça. Puis en fait, je vous ai préparé un petit topo sur la légende de l'Atlantide. J'ai fait des découvertes vraiment pour le moins intrigantes, puis vraiment une théorie sur le sujet, donc je vous raconte ça dans pas long.
Bon, ben, j'espère. On va s'amuser. Allez, on démarre ça, le cabaret.
C'est parti.
Sous le thème de la mer.
Le bonheur, c'est la mer. Lorsque revient l'été, le bonheur, c'est qu'on ait pu se rencontrer sur la plage ensoleillée.
J'avoue, il y a une voix qu'on a reconnue, je pense, tout le monde l'a reconnue, mais l'autre voix, peut-être, c'est la voix masculine, on ne l'a peut-être pas reconnue.
Christine. Vous reconnu la voix féminine?
Oui, oui.
Ben oui.
Ginette Renault.
Ginette, tout à fait. Et Jacques Boulanger qui chantait 1969, cette chanson-là. Jacques Boulanger qui a animé pas mal d'émissions. Allô, Boubou, Boubou dans le métro, Boubou, Superstar.
C'est pas mal, Boubou, hein?
Superstar, oui.
Et un que je me souviens très bien, c'est le train de 5 heures. Donc, voilà pour Jacques Blanchet.
Ah oui, quel grand animateur. On s'en inspire d'ailleurs. Merci beaucoup, Christine. On revient plus tard à toi à l'émission avec d'autres musiques et chansons. Alors, vous nous écoutez, vous nous aimez, le meilleur moyen, bien, c'est d'aller aimer notre page Facebook. Et je vous invite pendant les vacances à aller écouter des podcasts que vous n'avez pas écoutés. Donc, passez la liste. Il y en a on a dû passer notre 25e podcast là, qu'on a fait. Donc, il y en a une trollée. Fait que allez les voir, allez les écouter et donnez-nous vos commentaires. Donc.
Puis des petites étoiles aussi.
Et des petites étoiles. Merci. On débute ce cabaret avec Janelle. Je me tourne vers toi, Janelle. Tu termines la saison en beauté avec tes traditionnels faits insolites. Est-ce que les choix ont été faciles pour toi?
Non, pas pantoute. Pantoute. Il y avait tellement de choix, là, vous pouvez bien vous imaginer. Alors, on débute ça en parlant de richesse. On dit souvent que l'eau est la richesse de notre planète. On parle d'or bleu souvent, mais ce n'est pas à double sens. Plusieurs études et recherches démontrent que l'océan renferme une quantité mirobolante d'or. Plus précisément, 31 millions de kilogrammes d'or qui est principalement sous forme de particules, mais aussi de l'or condensé qui se retrouve dans les fonds marins. Celui-ci est imbriqué dans la pierre, mais situé à un minimum d'un 1,6 km sous la surface de l'eau. Donc, oui, beaucoup de richesses dans la mer.
Moi qui pensais aller me baigner puis ne plus me doucher pour récupérer l'or sur ma peau, mais non. 1,6 km, c'est bien trop bas.
Hey, je vous demande si vous connaissez la fosse des Mariannes. Avez-vous déjà entendu parler de ça?
Non, pas moi.
Oui.
Non.
Non.
C'est l'endroit le plus profond de l'océan. Elle n'a été sillonnée que par 3 individus, dont un réalisateur, producteur, scénariste de renom que, devinez c'est qui?
Pas le gars du Titanic!
Ben oui! Oh. James Cameron. En effet, là, en 2012, Cameron est devenu le seul être humain à descendre en solo à cette profondeur à bord d'un sous-marin en forme de torpille nommé le Deep Sea Challenger. Et Cameron n'y est pas allé en touriste, là. Il est allé récolter des données, des spécimens ainsi que des images de sa visite au bénéfice de la science. Le voyage précédent, le seul qui a été fait à cet endroit-là avait été fait en 1960, alors qu'un équipage de 2 hommes avait réussi à atteindre ce lieu. C'est quand même incroyable que la Lune ait été visitée par neuf personnes de plus que la fosse des Mariannes, même.
Ah ouais, puis c'est sur ça. C'est où ça exactement? Est-ce que tu le sais?
Non, je ne sais pas.
Est-ce que notre Google le sait?
C'est dans le Pacifique. C'est une fosse à près de 11 km de profondeur, je pense.
Ouais. Exact, c'est ça.
Oui, c'est un petit peu en bas. Oui, un petit peu en bas du Japon, entre le Japon et la Nouvelle-Guinée.
On ne peut pas passer à côté de quelques statistiques environnementales. Je voulais quand même, parce qu'on en parle souvent, de toutes les tonnes de plastique, les 8,3 milliards de tonnes de plastique qui ont été déposées ou produites, en fait, depuis les années 50. C'est l'équivalent de 47 millions de baleines bleues. Baleines.
Ça dépend d'où qu'on vient.
On sauvera les plaintes.
Les baleines.
C'est ça. Et au niveau mondial, c'est 9% seulement de ces plastiques qui ont été recyclés, 12 incinérés et 79% qui restent dans notre environnement. Et ça, c'est ça, comme je disais, depuis les années 50. Connaissez-vous, avez-vous déjà entendu parler? C'est bien à la mode en ce moment. Ben, à mode. pas à mode, mais c'est très le microplastique. Avez-vous entendu parler de ça? Petites particules de plastique, moins de 5 mm, là, sont dispersées partout dans l'environnement. C'est devenu un sujet de préoccupation parce que ça s'accumule partout dans les sols, dans les cours d'eau, dans les lacs, l'environnement marin, surtout dans nos aliments. Greenpeace estime que on fait des tests et plus de 90% des marques de sel échantillonnées dans le monde contiennent du microplastique.
Ben voyons donc.
C'est quand même étonnant. Mais je nous sors de ces statistiques un peu pour qui rabaisse un peu le mood là, du cabaret. Je vous ramène un petit peu dans un mood un peu plus festif qui dit océan, dit pirate.
Oh.
Ah oui! Là, on a toute l'image de Jack Sparrow en ce moment en tête, hein, quand on parle de pirate. Ben justement, le stéréotype du pirate avec son accent et ses habits iconiques ont été commercialisés, inventés et commercialisés par Disney dans les années 50 avec le film Treasure Island. Il y a quand même, par contre, des choses qui étaient vraies, qui sont vraies dans le stéréotype du pirate. Il est vrai que les pirates portaient un cache-œil, okay, même si Jack Sparrow avait pas de cache-œil, lui, dans son personnage, afin que d'aider leurs yeux à s'adapter plus rapidement à la lumière du pont du navire et à l'obscurité des cales du sous-sol du bateau, les pirates se mettaient un bandeau sur un œil pour se toujours adapter à l'obscurité.
Ah oui!
Mm-hmm. OK, c'est pas parce qu'il était blessé.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis lorsque les pirates portaient des boucles d'oreilles, ils ne cherchaient pas seulement à être à la mode. Selon National Geographic, les marins pensaient qu'une pression sur le lobe des oreilles allait éloigner le mal de mer. Mais bon, là, on sait que les oreilles internes affectent le sens de l'équilibre, mais mettre des boucles d'oreilles dans vos lobes, ça atténue en rien le mal de mer.
Ah, c'est bon.
Je termine avec un petit segment beauté, bien-être sur la mer. Les études démontrent que l'eau de mer revitalise le corps. Puis là, ce n'est pas ici... tu sais, on dit que la mer est riche en ions négatifs, donc porteurs de charge électrique, de potassium, de sodium, de calcium, entre autres. Ça pénètre à travers la peau et se diffuse dans l'organisme. Donc, ça agit sur le renforcement des os, la régénération des cellules musculaires et l'élimination des toxines. Donc, ceci se prend... se fait de façon naturelle dans le corps et l'opération s'effectue en 12 minutes. Donc, une petite baignade d'un quart d'heure et nous sommes revigorés dans la mer.
Wow!
Elle embellit la peau aussi. On sait que le sel agit comme un exfoliant naturel sur la peau. Ça draine, le corps aussi se draine dans l'eau salée, ce qui stimule la circulation lymphatique et sanguine et permet de lutter contre la rétention d'eau. Donc, exfoliant, ça raffermit aussi et élimine la cellulite. Donc, on veut aller se baigner dans la mer et dans l'eau salée. Les oligo-éléments constituent une formule aussi anti-stress. Donc, un des bénéfices les plus immédiats, c'est l'apaisement. Dans le fond, ça disperse les tensions, ça apaise efficacement. Donc, le bain de mer est particulièrement préconisé après une séance de sport, alors que tous nos muscles sont tendus. On dit même que ça enlèverait les courbatures du lendemain.
Je le savais que j'habitais pas à bonne place.
Donc, j'espère que vous aurez cet été la chance de profiter de tous ces bien-être, de tous ces bienfaits sur le corps. Voilà.
Ben oui. Mm-hmm. Ben j'espère. Et Juan et moi, il y a 2 ans, on est allés à la mer morte. On est allés flotter là-dedans. Et le taux de sel de la mer morte est 10 fois supérieur au taux normal de la mer. 300 grammes par litre. 300 grammes de sel par litre, comparativement à 30 grammes de sel par litre dans la mer.
D'ailleurs, tu te rappelles, on flotte, hein, on peut vraiment pas mettre les pieds à terre. Hein.
Oui, et quand tu vas là-bas, il y a toute une industrie touristique là, qui est autour de ça. Et tous les produits de beauté que tu as parlé, là, Janelle, là, ils sont tous là.
Ils sont tous là.
Ouais. Et on en a ramené quelques-uns. Merci beaucoup, Janelle.
Merci!
Ah, c'est bon, ça, Christine.
Destination soleil, ça sent la crème solaire.
Le petit coconut, là.
Oui, hein? On écoutait les Beach Boys. Les Beach Boys, pardon, c'est un groupe qui est formé en 1961 en Californie, composé de 3 frères, un cousin et un ami. Donc, c'est quand même un groupe assez familial. Et très, très populaire dans les années 60-70. Et je dois vous dire aussi, moi, dans les années 90, je tripais sur un groupe qui s'appelait les Wilson Phillips. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe-là. C'est un groupe très pop, très populaire éphémèrement. Donc, comme les groupes des années 90, composés là, en fait là, de 2 sœurs Wilson, qui étaient les filles de Brian Wilson, donc chanteur du groupe des Beach Boys. Et la troisième là, des Wilson Phillips, c'était la fille des Mamas and des Papas, Geneviève, California Dreaming. On l'a chanté souvent ensemble. Mm-hmm. Mais on écoute encore les Beach Boys, une autre petite chanson de mère. Everybody's gone surfing USA.
Ah, on aimerait l'écouter au complet. Merci beaucoup, Christine.
Un petit mojito avec ça, moi.
On poursuit ce cabaret autour du thème de la mer et je me tourne cette fois-ci vers Patrick. Patrick, c'est ta quatrième participation au cabaret?
Quatrième,
bon. Ouais. Alors, est-ce que ça a été difficile, ce sujet-là à exploiter, la mer?
J'avais trop à dire sur la mer, mais pour moi, c'est tout l'aspect mystérieux de la mer qui me parle.
Ouais.
C'est ça que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous.
Alors, on t'écoute.
Ben, pour plusieurs, la mer, c'est un synonyme de vacances tout inclus sous le chaud soleil des tropiques, à se faire dorer à Queen, à boire des piña coladas. Pour d'autres, c'est des souvenirs de croisière dans les îles sur un énorme bateau qui laisse derrière lui un sillon éphémère qui disparaît sans jamais laisser de trace. Et pour moi, la mer, c'est une vastitude qui m'emplit. Même si les vagues se fracassent sur la côte dans un vacarme infernal, même s'ils ventent à écorner les bœufs sur le bord de la mer, pour moi, c'est apaisant. Tu vois jamais le bout de la mer, c'est trop grand. C'est comme regarder le ciel en plein jour, c'est juste du bleu. Et quand je regarde la mer, ce qui fait que je trouve ça aussi impressionnant, je pense que c'est de savoir qu'il se cache sous la surface tout un tas de choses que personne ne verra probablement jamais. Quand je regarde la mer, ben c'est aussi l'horizon que je contemple. Puis moi, debout devant l'horizon, je sais qu'il n'y a rien pour m'arrêter et que je peux moi-même tracer ma voie. Voici une bouteille à la mer. Le soleil se lève sur une nuit qui s'incline, brisant l'aube depuis l'aurore, sur les mystères que tu abrites. Il se duplique et s'étire, surplombant l'horizon qui se cambre. Doucement, tu t'éveilles dans une mélodie de clapotis. Tu t'étends devant moi et je te contemple. Je contemple ta vastitude depuis la berge où tu déferles, la fin de ton parcours, depuis l'infini. Tu caresses tendrement mes pieds qui, dans le sable, lentement s'enfoncent. Tu me prends, m'attires, et m'envoûte. Tracé par les historiens et les géologues, je m'imagine les épreuves de ton parcours, divisées, séparées et façonnées depuis la pente à l'assa. Tu te dresses dans ton horizontalité, je t'observe et je ressens ta fragilité. Il y a tant d'histoires dans ton immensité. Sous ta surface, au milieu des paysages inversés, se reposent les vestiges du passé, immobiles, figé, témoignage des traversées, des voyages et des batailles. Aux côtés de tes épaves fatiguées que peu à peu tu engloutis, se laissent porter des âmes à la dérive, perdues, cherchant un partenaire pour valser dans l'éternité. Je ne comprends pas les mystérieuses créatures qui sillonnent dans tes profondeurs démesurées, halo de bioluminescence dans l'obscurité de tes abysses. Je ne m'explique pas tes lieux énigmatiques, du triangle des Bermudes à la cité perdue d'Atlantide. Je rêve de découvertes à bord du Nautilus. Un autre jour se défile, s'abandonnant au crépuscule, comme une braise qui s'éteint et disparaît dans l'abîme. Tu te poses et te reposes dans un périple sans fin. J'échappe alors le reflet de moi-même dans ce miroir qui s'éteint. Je glisse alors des mots d'espoir et une bouteille à la mer. C'est toute une saison qui tire sa révérence et nous souhaitons son retour comme la marée, en espérant qu'elle soit courte en ce jour de solstice, impatient de plonger à nouveau vers des mondes à découvrir.
Wow, bravo Patrick!
Wow. Yeah.
Très beau! Merci!
Patrick, j'ai eu quelques questions. C'est quoi le Nautilus? Juste un peu ignorant. C'est quoi le Nautilus?
Le Nautilus, c'est le sous-marin dans le livre « 20 milieux sous les mers » de Jules Verne. C'est le sous-marin de Nemo, le capitaine Nemo, en fait, qui a fait tous les voyages dans les profondeurs océaniques. Ouais,
le voilà moins ignorant, mais
grande pieuvre, tu sais, une grande pieuvre géante, mm-hmm. un moment donné dans le film, là.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Plus poétique qu'un gym, en tout cas.
Parfait. J'avais la même référence, jamais.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci.
Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort.
Très talentueux, Michel Rivard. Christine?
Avec sa chanson « Je voudrais voir la mer » de l'album homonyme paru en 1989. Déjà, ça fait quand même plusieurs années. Mmh. Avez-vous des expériences particulières là, en lien avec la mer? Des belles ou des moins belles? Des fois, ça peut être bouleversant, la mer, un peu.
Ben moi, cette chanson-là qui vient de jouer, là, de Michel Rivard, c'est la première que j'ai chantée en audition. Fait que ça peut être mon lien avec la mer. C'est ça qui m'est venu tout à l'esprit, là, à un moment donné, pour faire des petits spectacles et tout ça. Mmh. Très belle chanson.
De mon côté, moi, j'ai déjà été à la plage, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé « Écoute, j'ai perdu mes clés dans l'eau, est-ce que tu peux m'aider à les retrouver? » Mais figurez-vous que je commençais à marcher dans l'eau, puis là, j'étais comme « OK, peut-être que je vais les trouver, ces clés-là, tu sais, quand t'as un feeling, là. » Puis, boum, je suis tombé dessus. Fait que là, j'ai retrouvé les clés de son appartement qui était à la plage. Fait que c'est ça, mon expérience insolite à la mer.
C'est pas comme l'histoire quand j'ai perdu mes lunettes dans la mer. Tu les avais pas retrouvées, celle-là?
Non.
Moi, j'ai une petite expérience, là, que les vagues étaient tellement fortes. Je me souviens d'avoir plongé une vague qui s'en venait. On était à, je crois, à Ocean City, quelque chose dans ce coin-là, sur la côte est américaine. Le courant était tellement fort, les vagues. Je me souviens d'avoir plongé dans une vague, puis la vague m'a tellement ramassée, je me souviens de m'avoir disloqué l'épaule en plongeant.
Oh, wow.
Ça a été extrêmement douloureux, ce moment-là. Fait que, c'est fort, la mer.
Oui, c'est fort.
Ouais.
Mais merci beaucoup. On s'en va en chanson encore. Et là, ça en est toute une.
Tout à fait.
Partons.
Christine!
Hey, je l'adore, cette version-là. C'est Partons, la mer est belle, la version de Guylaine Tremblay. Je me suis mélangée. Guylaine Tanguay, désolée.
Peut-être que Guylaine Tremblay la chante de temps en temps.
Désolée aux deux Guylaines qui nous écoutent, d'ailleurs.
Alors, on poursuit ce cabaret des acolytes et je me tourne cette fois-ci vers Geneviève. Geneviève, tu vas nous parler de produits de la mer.
En effet, je me suis attardée vraiment à faire des recherches ici et j'ai même appris des choses que je ne savais même pas qu'on avait ici au Québec. Et donc, je m'attarde plus précisément, les acolytes cette semaine, à vous parler des fruits de mer.
Mmh.
Donc, et voilà, on est tous comme « tu sais, c'est ça ». Donc, saviez-vous qu'au Québec, on a des oursins verts.
Ben voyons donc.
Sérieux? Moi, je ne savais pas.
Mais pour vrai, je ne le savais pas pantoute.
Pantoute. Moi non plus.
Je
ne
savais pas que ça existait des oursins verts.
Donc, c'est ça. Alors, oui, on a des oursins verts au Québec. Il y en a qui comparent les oursins verts à un foie gras ou à des truffes tellement c'est comme délicieux. Moi, j'aime ça dire que c'est comme le caviar pour moi de la mer. Donc,
C'est quoi que tu manges? Tu manges la chair ou tu manges? Parce que tu manges pas les piquants, ça c'est certain.
Mais
non, ça, c'est
certain. J'ai lu que des fois, il y en a que ça a l'air que oui, que ça serait comestible, mais c'est pas au courant. Là. J'étais surprise un peu de ça. Là.
Okay.
Moi, fait que dans le fond, normalement, tu vas couper avec un ciseau le truc parce que c'est pas très, très dur. C'est pas comme une carapace d'un homard ou quelque chose. Mm-hmm. Fait que tu peux le couper avec des ciseaux, tu vas le mettre en deux et c'est le corail qu'on va manger, mais c'est aussi l'organe reproducteur, mais c'est ça qui est très, 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 très bon.
Ah bon, OK. Bon.
Donc, c'est un peu orangé comme couleur et ça a un goût fin et sucré et un tantinet iodé, si on veut. Alors, vraiment, ça frôle la perfection.
Oh.
Oui, donc l'oursin, lui, aime les eaux très, très, très froides. Alors, on le pêche aux abords de l'estuaire du golfe Saint-Laurent, alentour de Rimouski, si vous voulez, pas très loin de là. On peut se le procurer à la poissonnerie La Mer, qui est à Montréal, sur le boulevard René-Lévesque. Ils ont toutes sortes de possibilités. On peut magasiner là-bas, on peut appeler avant un ramassage sans contact, toutes sortes de choses. Et vous pouvez aussi, sinon, j'ai trouvé un site web très intéressant, c'est une compagnie qui s'appelle Oysters et caviar. Et eux, ils livrent absolument partout dans plusieurs provinces du Canada. Alors, franchement, voilà.
C'est une belle alternative.
Oui, vraiment. Ça, c'est super, je trouve, comme concept aussi. Donc, c'est ça. Mon deuxième fruit de mer dont je vais vous parler, c'est des pétoncles. Parce que je ne sais pas pour vous, c'est quoi votre fruit de mer préféré, les acolytes? Moi, c'est vraiment le pétoncle, là.
Les pétoncles aussi, peut-être. J'allais dire les crevettes, peut-être.
Ben, j'ai les crevettes, puis j'ai les pattes de crabe.
Oh, ça, c'est bon.
Les pattes de crabe, c'est bon.
Moi, j'aime beaucoup les langoustes.
Ah oui.
Oh. Oui, crevettes, moi aussi.
Oui. Patrick?
Moi, c'est les pétoncles.
Ah oui.
Ah ouais. Ah ouais.
Ça fond. Alors moi, c'est ça. Donc, le roi des fruits de mer, on a des pétoncles géants ici. Et on a aussi les pétoncles d'Islande ici. Alors oui, je sais pas, j'ai essayé de fouiller un peu comment ça se fait, mais je suis peut-être avec le courant ou je sais pas. L'Islande, il y a quand même le il y a autre chose entre les deux, mais ça a l'air qu'on a ça quand même aussi. Et donc, il semblerait que c'est celle des îles de la Madeleine et de la Côte-Nord qui sont vraiment les meilleurs pétoncles. Et dans le fond, frais, on peut les avoir de mars à novembre. Alors, c'est ça. On peut les obtenir congelés, mais d'une fraîcheur inégalée via les distributions Philippe Brochu au travers tout le Québec. Puis c'est ça. Donc, si vous préférez des pétoncles qui sont plus petits, ça va être vraiment le pétoncle d'Islande vers lequel vous allez vous tourner. Et puis finalement, on a aussi des délicieuses huîtres au Québec.
Ben oui.
Vraiment. Hein?
Ah, donc, ça, c'est peut-être mes préférés, ça.
Je pense.
Ben oui,
je te file, Jean-François, là, moi. Là. Je pense à San Francisco, les huîtres. Il me semble que je te vois là. Fait que. Donc, dans le fond, c'est ça. Comment rendre un jour de semaine extraordinaire? Hein? On peut se taper des belles petites huîtres comme ça. Les huîtres qu'on a ici, elles sont très charnues. Et avec un juste dosage de sel. Donc, c'est vraiment excellent. On est gâtés. Comment vous préparez à prêter vos huîtres, vous, les acolytes, justement?
Moi, Jean-François m'a fait découvrir sa petite sauce au vinaigre de vin rouge. Tu avais apporté ça une fois à la maison, JF, et c'était vraiment délicieux.
Ouais, vinaigre de cidre. C'est vinaigre de cidre, non?
Ben, en tout cas, chez nous, tu avais mis du vinaigre de vin.
Non, je pense que tu as raison. Rouge,
des petits oignons, là, c'est pas ça.
Oui, les petits oignons, là.
Un classique.
Ouais.
Ah oui, c'est bon, ça.
Mais avec du tabasco aussi, c'est bon, ça. Juste quelques gouttes de tabasco. Ah, c'est bon.
Il est déjà qu'elle est vivante, la pauvre, là.
OK, ben c'est intéressant. C'est sûr que les huîtres, il y a plusieurs façons de les faire. Moi, je préfère cru aussi, puis le plus nature possible, ou peut-être juste un peu de citron, mais j'aime bien le mélange. Tout ce qui a été mentionné est très, très bon, là. on s'en lèche les babines. Alors, la plupart des fruits de mer, là, je dirais même qu'on a au Québec, on les retrouve beaucoup dans les supermarchés aussi. IGA est quand même un fier. On a nos produits, là, certainement, chez IGA.
Ça, c'est extraordinaire. Hein. Quand on arrive au Québec, là, on se rend pas compte à quel point on a cette chance-là, parce que c'est pas partout dans les autres pays où tu peux trouver des huîtres au supermarché.
Non, c'est ça. Puis au supermarché, je suis d'accord avec toi, vous pouvez aussi rechercher un logo d'une sirène qui est en blanc. Ça, c'est les fruits de mer du Québec qui sont sous vide et dans une boîte, là. Donc, la sirène est sur la boîte et après, c'est emballé sous vide. Alors ça, c'est des très, très bons produits puis qui sont... On fait très attention aussi de, on prend soin à bien les emballer comme il faut pour nous, pour pas détériorer la fraîcheur et tout ça. Fait que dans le fond, autrement dit, OK, si vous avez envie des fruits de mer là au Québec, vous pouvez penser à des moules bleues, homards, crabes des neiges, crevettes nordiques. On a même des bourgots ici, je savais pas. Mm-hmm. Et on a aussi des mactres de Stimson. Alors, gâtez-vous, ménagez pas le fruit de vos efforts au boulot, payez-vous la traite avec des bons fruits de mer du Québec.
C'est quoi des mactres?
Ben, c'est une sorte de fruit de mer qui est aussi, encore une fois, c'est un goût... Un peu plus sucré, très fin, OK? Et c'est blanc et rouge, c'est vraiment... ça peut se manger dans des pâtes. C'est très, très, très prisé en Asie. Ils en commandent beaucoup, beaucoup. Là, ils en prennent de chez nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Eux autres, ils mangent ça comme, évidemment, là, un peu en sashimi. C'est ça, accru.
Merci, Jen.
Merci beaucoup, plaisir. Jen.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
Christine.
On écoutait le légendaire Charles Trenet. Jean-François, je pense que c'est une chanson que tu connais bien, hein, ça?
Oui, et Juan et moi, on a passé à côté... sur la côte où Charles Trenet a écrit cette chanson, parce qu'il a écrit sur un voyage de Montpellier à Perpignan. Et lorsqu'il a écrit La mer, il l'a écrit en une vingtaine de minutes, et lorsqu'il a écrit La mer, cette chanson-là, eh bien, ce n'était même pas la mer Méditerranée, même si dans le voyage, on voit la mer Méditerranée. C'était, il s'est inspiré de l'étang de Thau, qui est à côté de... juste à côté de Perpignan. Donc, c'est ce qui a inspiré. Puis quand tu passes là, puis tu dis, bon, c'est dans ces alentours-là que Charles Trenet a écrit La mer, ben c'est, y a quelque chose qui vient de chercher. Mm-hmm. Ouais. Alors, on poursuit ce cabaret des acolytes sous le thème de la mer, justement. Et je me tourne cette fois-ci vers Juan. Juan, est venu le temps de ton tour de conteur d'histoire, l'Atlantide ou les secrets cachés sous la mer. Ouais, on t'écoute.
Alors oui, alors l'Atlantide, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette légende? Dans le fond, c'est une légende qui nous raconte l'histoire d'une civilisation très avancée qui aurait existé et qui vivait sur une île quelque part sur Terre. Donc ses habitants auraient maîtrisé des technologies avancées, mais avaient été rendus cupides de par toute leur richesse, et pour les punir, les dieux auraient englouti cette île sous les eaux en ne laissant plus aucune trace de cette civilisation. C'est une belle légende quand même.
Oui.
En fait, cette légende, elle est fondée sur un texte du grand philosophe Platon, donc 428 à 348 avant Jésus-Christ. Donc c'est un texte que lui, il a écrit, et il faisait référence à une mémoire d'homme qui se serait donc transmise de génération en génération à travers les siècles. Et si on calcule, c'était donc environ il y a 2500 ans que ce texte a été écrit, puis on en parle encore aujourd'hui. Quand même, c'est beau. Ça traverse le temps. L'histoire, c'est vraiment phénoménal.
Mais de quoi ça parle?
Mais Platon, il décrit plus particulièrement une île en anneau dans la mer, avec en son centre une autre petite île, donc vraiment une mini-archipel, Et ce qui est passionnant, c'est ce que je m'apprête à vous dévoiler. Figurez-vous qu'il existe dans la mer Méditerranée un archipel qui correspond parfaitement à la description de Platon, et c'est l'île de Santorin ou Santorini pour les intimes. Alors quand on Santorin là, quand on voit des images de la Grèce avec les maisons blanches, les toits bleus, avec une falaise qui mène à la mer,
ça c'est Santorini.
Vous avez tous cette image en tête. Bon ben ça c'est en général Santorini avec des avec ses plages de sable noir. Bref, elle est très très reconnaissable. Donc à Santorini, les scientifiques et les archéologues ont fait une découverte vraiment pas banale. Ils se sont rendus compte que sous cette île est enfouie une autre ville. Donc les fouilles ont pu mettre
vraiment.
Les fouilles ont pu mettre à jour des vestiges datant de 3500 ans, donc 1500 ans avant Jésus-Christ. Et ce qui est fascinant, c'est la ville en elle-même. Elle est composée de maisons vraiment similaires aux nôtres sur plusieurs étages avec des fenêtres puis des portes comme les nôtres. Des toilettes dans les maisons, puis un système de canalisation très avancé qu'on ne retrouvera qu'à l'ère moderne dans l'histoire humaine en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un premier indice que, éventuellement, l'Atlantide aurait existé.
Penses-tu qu'il y avait du Wi-Fi? Ah,
je ne sais pas. Écoute, mes recherches n'ont pas trouvé la présence de Wi-Fi, mais de là, ils ont fait le lien avec une autre curiosité dans la mer Méditerranée, à savoir la ville de Knossos, qui est en Crète. Pardon. Donc toujours dans l'archipel grec, mais environ à 150 km de Santorini, vers la côte africaine. Donc c'est une ville dont on a fait la découverte à la fin du 19e siècle, donc en 1878 pour être précis. Là encore, des bâtiments sur plusieurs étages, des canalisations, des toilettes dans les maisons et une datation de 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc les fresques sur les deux sites archéologiques racontent les mêmes histoires, parlent des mêmes dieux et du coup on en a conclu que c'était bien la même civilisation qui a construit ces deux sites. Donc il y a maintenant plus de 3500 ans, on sait qu'il y avait une civilisation qui avait son emprise commerciale sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Mmh. Leur technologie et leurs concepts architecturaux démontrent que ce peuple était vraiment avancé. Mais il a disparu puisque dans l'évolution de l'homme et de la société humaine, on n'a pas été marqué par ces avancées hors du commun pour l'époque.
Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ben c'est sûr, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est la grande question que plusieurs scientifiques et historiens essayent de répondre. Puis ils se sont posé la question et en mettant leurs connaissances en commun, voici la théorie qui se confirme encore un peu plus chaque jour. Mmh. Donc, à Santorini, à l'époque, appelée Terra, c'était un carrefour commercial au milieu de la Méditerranée pour cette civilisation dont les dirigeants étaient probablement ceux d'un régime féodal, donc avec un roi et une reine, qui habitaient la ville de Knossos sur l'île de Crète. Okay. Quand on regarde Santorini vu du ciel, on a donc cette île en anneau avec au centre une petite île. On s'aperçoit qu'en fait, on a affaire à ce qu'on appelle une caldeira. Donc la caldeira, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le cratère d'un volcan à moitié submergé dans la mer, pour ce qui est de Santorini, et les relevés les géologiques le confirment, c'est un volcan. Donc, d'après les calculs scientifiques, il y a environ 3500 ans, ce volcan aurait eu une explosion bien plus forte que n'importe quelle autre qui a connu la planète. À savoir, pour vous donner une idée, le Vésuve qui lui a englouté Pompéi, lui, on parle de 3,5 km3 de roches et de magma qui auraient explosé pour engloutir la ville de Pompéi. Okay. Pour le volcan de Santorini, on parle de 100 km3 de roches et de magma qui auraient dû couler. Donc, c'est vraiment énormément plus fort. Donc, vous imaginez cette grosse explosion du cratère de volcan qui s'est rempli au... le cratère du volcan s'est rempli au complet. Il a chassé l'eau par-dessus les côtes extérieures de l'anneau de Santorini. La ville souterraine de Santorini aurait donc été enfouie à ce moment-là, mais c'est pas fini. Parce que la roche et le magma à l'intérieur du cratère sont bien trop lourds pour le sol marin à ce moment-là qui est pas habitué de supporter tout ce poids-là. Le sol marin s'effondre. Et sous le poids, il provoque un tsunami gigantesque en plein milieu de la mer Méditerranée. Donc là, on parle d'une vague de 100 km de haut, voyageant à près de 850 km par heure, tel que le confirment les simulations menées par les scientifiques. Puis c'est ce tsunami qui aurait plongé l'île de Crète sous l'eau, détruisant Knossos et en ne laissant aucun survivant.
Mais c'est pas le volcan, c'est le tsunami qui...
C'est le tsunami qui était la conséquence de l'éruption du volcan.
Ouais, ouais.
L'éruption du volcan, en fait, a détruit Santorini, donc la ville qui était en dessous de Santorini et qu'on a retrouvée il y a peu de temps, en fait. Et puis, le tsunami, lui, a comme fait déferler cette grosse vague qui a en fait englouti l'ensemble de l'archipel, des archipels grecs, et qui est arrivé même sur les côtes de l'Égypte et les côtes d'Israël. On en retrouve encore aujourd'hui des traces physiques. Fait que c'est ça qui est vraiment impressionnant, là, c'est qu'on se dit qu'avec toutes les petites traces qu'on peut récolter à droite à gauche, on est capable de redéterminer ce qui a pu se produire dans le passé. Bon, il semble que les survivants de cette civilisation soient morts de faim, en fait, pour ceux qui restaient, dans le fond, parce que toutes les récoltes et les provisions avaient été détruites, donc ils n'avaient plus rien à manger. Ils seraient morts comme ça. Donc, pour
ils sont même pas morts du tsunami.
Mais la majorité sont morts du tsunami, oui, et dans l'explosion du volcan, mais le reste qui était, mettons, en voyage en Égypte ou en Israël, parce que eux autres maîtrisaient tout l'ensemble du bassin méditerranéen, comme l'a fait un petit peu la population romaine quand ça a été son tour, là.
Moi, je pensais, Juan, que l'Atlantide, c'était réellement une légende, mais c'est pas du tout, là. On est près de la réalité.
On est près de découvrir qu'en fait, c'était bien ça, et que c'était ça, en fait, qui a fait en sorte que Platon a écrit ce texte-là. En fait, on peut comprendre que le texte de Platon, qui a été écrit environ 1000 ans après cette tragédie, dans le fond, c'était le reflet d'un événement dans la mémoire de l'homme, à l'époque, et que ce dernier, en fait, a donc fait traverser ce souvenir jusqu'à nous grâce à un simple parchemin. Puis c'est vraiment ça. Et la force de l'histoire. Moi, ça me fait capoter.
Wow.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Wow. Mais... beau. Ouais. Intéressant.
Merci.
Merci super beaucoup, Juan.
Il paraît que j'ai l'amour éphémère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère.
Ah, quel choix musical, Christine, c'est bon, t'as
vraiment. Oui,
vraiment.
C'est après le tsunami, là, un homme à la mer.
Il y avait quelques hommes à la mer, je pense.
Mais oui.
Steffi Choc qui chantait Un homme à la mer.
Merci beaucoup, Christine. Connaissez-vous l'histoire de Pi, oui? Livre, oui. Ou le film, moi je l'ai lu lorsque c'est sorti, et si vous l'avez pas lu ou si vous avez pas vu le film, c'est un film à voir autour de la masse, un petit garçon nommé Pi qui passe 227 jours dans un canot de sauvetage, et on va apprendre tout son périple. Et allez voir le film. J'avais des craintes lorsque le film est sorti, j'avais des craintes à ce que le film soit pas aussi bon que le livre, parce que le livre est excellent. Et c'est deux chefs-d'œuvre. Le livre et le film sont extraordinaires. Donc, allez voir ça cet été. Hein? C'est un bon film à aller voir cet été. On va faire un tour de table, puis j'ai demandé aux acolytes de se préparer et de trouver le moment qu'ils ont le plus affectionné dans cette saison qu'on a passée tous ensemble. Un peu confinés, on doit l'admettre, mais je pense qu'on a eu bien, bien du plaisir. On va commencer ce tour de table peut-être avec Geneviève, la doyenne des acolytes, ou Christine aussi, c'est la doyenne, hein?
Avec toi, oui, c'est ça. Mais écoute, c'est difficile de choisir juste un moment, mais j'avoue que j'ai bien aimé notre dernier podcast avec Dalida. J'ai particulièrement aimé ça.
C'était pas pire, hein?
C'était la première fois qu'on faisait un podcast, je pense, alentour d'une personnalité, si je me trompe pas. Fait que si tu trouves ça, c'est je peux dire que c'est un de mes meilleurs moments, mais il y en a eu tellement.
Et toi, Christine?
En fait, moi, j'ai beaucoup apprécié le podcast qu'on a fait sur la pige. Moi, j'avais pigé Juan. Et pour replacer les auditeurs peu, la pige, c'était qu'on a pigé quelqu'un, un autre acolyte, puis on devait le gâter, lui offrir notre chronique. En fait, j'ai découvert l'Espagne. J'ai vraiment gâté la personne que j'avais pigée, mais je ne me souviens pas du tout qui m'avait pigé, moi. Je m'en souviens pas.
C'était moi, avec la danse à Saint-Dion.
Je m'en souviens très bien, puis j'avais beaucoup apprécié aussi.
Mais quel excellent concept, hein? On doit se le dire. Enfin. Janelle?
Moi, je dois dire que un de mes épisodes préférés, c'est celui de la pluie. La musique m'avait tellement frappée dans celui de la pluie, là. Oui, vraiment. Donc, ça, c'était un de mes moments forts. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé les modes alimentaires, mais la pluie m'avait frappé, vraiment.
Mm-hmm. Juan?
Ben, de mon côté, c'est quand j'ai pris la chaise musicale de Christine, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Puis,
rappelle-moi, c'était dans quel podcast?
C'était dans les téléséries.
Ah oui,
le binge-watching.
Le binge-watching, c'est ça. C'était vraiment... j'ai vraiment aimé ça. en tout
cas. Ouais, c'est pas facile, par exemple, faire
ce
travail-là.
C'est vraiment pas facile, vraiment pas. Moi, je te félicite, Christine.
Il y a des thèmes, des fois, qui sont très, très difficiles à aller chercher, mais il y a des thèmes que t'as tellement de tunes que là, il faut que tu choisisses, il faut que tu fasses
C'est tout ou rien, en fait.
C'est ça, exactement. Patrick!
Moi, c'est quand vous m'avez ouvert la porte au cabaret Mardi Gras, j'étais excité. Je vous écoutais depuis le début du cabaret, en fait, puis d'être dans l'envers du décor, de participer avec vous. Merci beaucoup pour la chaleureuse place que vous m'avez faite tout au long de la saison. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Merci beaucoup.
Ben, ça fait plaisir. C'est un honneur aussi que tu sois avec nous.
Et toi, Jean-François, c'était quoi ton meilleur?
Ben, j'avoue que Mardi Gras, moi, c'était un très, très beau cabaret, mais on en a fait quelques-uns. Là, Dalida également, ça, j'ai vraiment trippé là-dedans. Mais moi, il y a une toune que Christine a jouée et c'est Montréal de Didier Barbelivien. Et ça, c'était dans le podcast de Montréal. Et cette toune-là, je pense que dans la semaine qui a suivi, je l'ai fait jouer dans la maison pendant tellement. Juan n'était plus capable.
Non, je voulais tuer Didier Barbelivien. Je l'avoue. Pourtant, mais c'est un artiste que j'apprécie beaucoup.
Je ne la connaissais pas, cette chanson-là. Mais je connais un peu le parcours de Didier Barbelivien, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Alors, je vous remercie. On se retrouve cet automne et passez un bel été. Je vous remercie. Ce balado est une production Fort Talent. On participait à cet épisode Janelle Touchette, Christine Gélina, Geneviève Proulx, Juan Blasco et Patrick Beaudoin. Mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse la gang. D'habitude, je vous laisse sur une citation.
Ben oui.
Mais checkez bien ça. On va se laisser sur une petite musique.
Revoir Montréal sous la neige au soleil et me sentir encore.
Ciao tout le monde. Bon été.
Bon été. Bon été. Bon été.